RCF.
Bonjour à tous et bienvenue au pied de la lettre, le rendez-vous avec la littérature sur RCF. L'humanité sera-t-elle un jour capable de mettre fin à la violence? Mais d'où viendra cette sagesse? À quel saint se vouer pour enfin échapper au piège de la domination? Dans le roman d'Amin Maalouf, les puissances nucléaires entrent dans un bras de fer, alors qu'une force inconnue s'interpose et vient prendre l'humanité tout entière en otage. Ainsi, y a-t-il toujours plus fort que nous? Qui prenne le pouvoir? Est-ce pour le meilleur ou pour le pire? Nos frères inattendus d'Amin Maalouf est publié chez Grasset. Et puis comment s'enchaînent inexorablement les drames? Comment quelques-uns déraillent au point de ne plus pouvoir revenir en arrière? Au service du bien ou du mal, il y a toujours un moment où il faut se déterminer, à moins que ce soit notre histoire personnelle et les hasards des rencontres qui forcent le destin. La grande épreuve d'Étienne de Montetti est publiée aux éditions Stock.
Au pied de la lettre, Christophe Héning.
Bonjour Amin Maalouf.
Bonjour.
Vous êtes académicien, Goncourt 93 pour Le Rocher de Tanyos, auteur d'une œuvre importante, notamment nourrie de l'histoire. Ce roman est davantage une dystopie. Vous nous plongez dans un avenir un peu sombre.
Je ne dirais pas vraiment sombre. C'est plutôt la réalité qui est sombre. Et ce livre est une tentative d'en sortir. Donc, il y a une phrase que je cite en exergue de Novalis, l'écrivain allemand, qui dit « Les romans naissent des manquements de l'histoire ». Et j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de manquements dans l'histoire que nous vivons. Et c'est de là qu'est né ce livre, qui est une tentative d'en sortir par une ruse romanesque.
Le roman, avec beaucoup d'imaginaire et en même temps, on s'y retrouve.
Avec de l'imaginaire, avec des éléments du réel et puis beaucoup d'espérance dans quelque chose qui pourrait arriver et qui est issu d'un grand moment de l'histoire universelle qui est le miracle grec.
On va en parler simplement. Vous êtes franco-libanais. Quelques nouvelles du Liban?
Quand je dis que le monde d'aujourd'hui a quelques manquements, je ne manque pas de penser, entre autres, au Liban. C'est un pays qui a été merveilleux, que j'ai vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, qui aurait pu présenter un modèle de coexistence. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Aujourd'hui, il apparaît quasiment comme un contre-modèle. Les choses continuent à s'aggraver. J'espère qu'à un moment donné, on commencera à remonter la pente, mais ce n'est pas encore le cas. On est toujours en train de dériver, de s'enfoncer.
Il faut chercher des signes d'espoir. Bonjour Étienne de Montetti.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Figaro littéraire, donc vous lisez beaucoup, mais vous écrivez aussi. Vos personnages vont se croiser dans La Grande Épreuve. Chacun avance vers son destin. C'est à la fois une histoire que vous racontez, mais c'est aussi une histoire vraie, il faut le dire. Vous transposez l'assassinat du père Jacques Hamel parce que la fiction peut-être nous aide à comprendre l'indicible, l'insaisissable.
Oui, puis elle nous donne la liberté aussi de l'explorer. On peut être tétanisé par ce fait divers terrible de l'assassinat du père Hamel, comme je l'ai été, ému comme nous l'avons tous été. Le romancier permet d'aller explorer la vie d'un homme, d'un prêtre qui peut être au fond le représentant de tous les prêtres, aussi des jeunes gens saisis par le mal-être et par l'islamisme, qui peuvent être aussi l'incarnation d'une certaine jeunesse. Donc le roman permet au fond d'aller plus loin dans la réflexion sans être tenu par les faits authentiques d'une histoire qui est survenue il y a 4 ans.
On va en parler des livres, des histoires. Au pied des lettres, il y a une place aussi toute particulière à la poésie. On retrouvera Stéphane Bataillon tout à l'heure et puis on retrouvera aussi un auteur malheureux dont le livre est paru pendant le premier semestre 2020, frappé par l'épidémie. Amine Mahalouf, alors tout commence paisiblement. Hein. Alexandre est propriétaire d'une toute petite île héritée de son père sur la côte atlantique. Il vit replié tranquille jusqu'à ce que surviennent des circonstances étranges et inédites. C'est quoi ces circonstances ?
Le monde connaît un événement étrange. On est à une époque où il y a des risques d'affrontements militaires et à un moment donné, quelque chose se passe.
Tout est bloqué. Tout les est radios, bloqué. Les réseaux.
Oui, tout est bloqué. Et ce personnage donc, qui vit sur une île se demande ce qui vient de se passer. Et il découvre peu à peu, lentement, tout au long du livre, ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer dans le reste du monde. C'est un bouleversement du monde, mais un bouleversement tranquille, où des personnages dont on ne soupçonnait pas l'existence, mais qui vivaient parmi nous, prennent le devant de la scène et changent les paradigmes du monde. Si je devais le dire comme cela, et tout change en réalité dans le monde, tous les rapports entre les gens, entre les rapports que nous avons à la vie, à la mort, à la maladie. Je précise que je l'ai écrit avant cette crise et que je n'y ai pas du tout touché après la pandémie, mais je l'ai relu. J'ai relu mon manuscrit pendant cette crise et même s'il n'y a rien qui évoque une pandémie,
il y a juste une question une fois. À un moment, il y a une phrase où on se pose la question d'un virus qui pourrait surgir. Oh non, c'est pas possible.
Ben, oui, mais c'était
prévu.
C'était évoqué parmi les risques auxquels l'humanité pourrait être confrontée.
Bien sûr.
Mais c'est une idée que j'avais et qu'on avait. Et en tout cas, je ne l'ai pas ajouté en relisant le livre. C'était juste évoqué comme une possibilité. Mais quand je l'ai relu pendant le confinement, j'ai eu le sentiment qu'il reflétait quelque chose de notre état d'esprit, de mon état d'esprit.
De ce que nous vivions.
Pendant le confinement. Et donc, je le lisais autrement, alors que je l'avais lu en novembre, décembre, avant de le donner à mon éditeur. Là, je le relisais d'une manière différente. Et je me suis dit, voilà, ce n'est pas à propos de ce qui vient d'arriver, mais c'est à propos de l'état d'esprit de l'humanité tel que je l'ai senti aujourd'hui.
Vous le disiez tout à l'heure, hein, il y a donc ces êtres qui viennent, qui surgissent, vous l'avez bien dit, qui prenaient place sur la scène mondiale, vous n'avez pas dit qu'ils prenaient le pouvoir, parce qu'ils apportent une certaine paix, une certaine fraternité, une façon d'intervenir qui est plutôt positif, parce que vous le disiez à l'instant, c'est au moment où les différents pays, notamment de forces nucléaires, s'affrontent. Et ils viennent, et ils apportent, ils apaisent.
Moi, j'ai toujours été fasciné par le miracle grec antique. Cette idée que, soudain dans l'histoire, il y a un moment où l'humanité connaît une éclosion dans tellement de domaines à la fois, dans le domaine artistique, dans le domaine du théâtre, de la philosophie, de l'historiographie, dans beaucoup de domaines.
Des sciences.
Et un peu les pratiques démocratiques. Et ça apparaît pendant en gros trois quarts de siècle, et puis ça disparaît. C'est comme s'il y avait un fleuve qui était devenu souterrain, comme la Bièvre à Paris, qui devient souterrain. Et j'ai imaginé que ces êtres qui sont nos frères, quand même, ce sont nos congénères, ils ne viennent pas ni d'une autre espèce, ni d'une autre planète. J'ai imaginé qu'ils ont pu se fondre, se faire oublier et continuer à avancer dans leur réflexion, scientifique, et réapparaître un jour quand nous en avons besoin pour nous dire « mais vous avez fait fausse route depuis deux millénaires et quelques, il est temps de redresser la barre ». Bon, c'est un rêve de romancier, mais j'avoue qu'il m'arrive de me dire que le monde aurait besoin de gens bienveillants qui apparaissent un jour et qui remettent les choses en place. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont bienveillants, mais le seul fait de devenir aussi important pose des problèmes par rapport à leur bienveillance même.
C'est ce qui se vit. Alors c'est ça qui est aussi très réussi dans votre roman, c'est que c'est une question universelle, planétaire, que vous posez pour l'avenir de l'humanité. Mais tout se focalise justement sur cet archipel où on retrouve toutes les questions qui se posent, finalement. Il est attachant, votre personnage, là, mais il se trouve au centre du monde, presque.
Il se trouve à son corps défendant au centre du monde. C'est quelqu'un qui a choisi de se retirer du monde. Et en même temps, étrangement, il se retrouve avec une voisine qui, pour une raison qu'il ne comprend pas au début, mais qu'il va comprendre au fil du livre, c'est un personnage important. Et elle-même ne le sait pas. Parce qu'elle a écrit un jour un roman qui a été lu par cette population qui va arriver et qui a fait d'elle une figure emblématique. Donc lui, il est à côté d'elle et cette proximité lui permet en quelque sorte d'accéder à un savoir et à un contact avec ces frères inattendus qu'il n'aurait pas eu autrement.
Ève, qui vit sur l'île aussi, elle se partage l'île avec votre héros. Très beau titre. L'avenir n'habite plus à cette adresse. C'est
Ève,
le livre qu'elle a écrit.
Ève, donc cette romancière qui est sa voisine, a écrit un livre dans sa vie qui a eu un immense succès, qui s'intitule effectivement « L'avenir n'habite plus à cette adresse », qui remet en cause toute son époque et toute l'orientation de l'humanité. Elle a un immense succès et puis elle est paralysée par ce succès. Elle décide d'aller vivre, elle aussi, sur une île pour essayer d'écrire son deuxième livre. Et il se fait que ce livre qu'elle a écrit a été lu et il a peut-être en partie provoqué le bouleversement que l'humanité connaît. Bon, ça aussi, c'est un rêve de romancier, d'imaginer
qu'un
livre...
Oui, c'est tout l'art du romancier, de tirer sur les fils.
Qu'un roman peut un jour être à l'origine d'un bouleversement du monde. Mais je rêve tout le temps de bouleversement du monde, parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui...
On a bien besoin.
Oui, je pense déjà qu'il va dans le mur. Beaucoup de choses, non seulement à propos de mon pays natal, mais partout dans le monde, ne fonctionnent plus, clairement. Et je rêve constamment de quelque chose qui viendrait renverser la table et changer complètement la donne.
Alors, ceux qui peuvent peut-être renverser la table, ce n'est pas forcément le président des États-Unis qui intervient dans votre livre, ou même les puissants, puisqu'il y a Moreau à côté qui est en lien avec votre héros, mais ça peut être le passeur, tout simplement. Alors qu'il s'appelle Agamemnon déjà. C'est une petite piste. Ce passeur qui aide simplement à accéder à l'île, eh bien finalement, il a peut-être plus de ressources qu'on l'imagine. On ne va pas tout dévoiler, hein, mais bon.
Il y a plusieurs personnages dans ce livre qui sont à la fois des acteurs de l'histoire et en même temps des figures symboliques. Et qui portent aussi des noms assez symboliques, quelquefois des noms de la Grèce ancienne, Agamemnon, Démosthène, Pausanias et autres. C'est vrai que ça a un sens pour moi d'imaginer que cet homme n'est pas simplement le passeur qui organise les transports entre une île et le continent, mais dans un sens beaucoup plus vaste, entre deux mondes en réalité, entre le monde que nous connaissons et un autre monde qui est à côté de nous et que nous ne connaissions pas avant qu'il n'intervienne dans nos affaires.
Mmh. On ne va pas dévoiler comment ça se passe, hein, parce qu'il y a aussi un suspense qui se déroule au travers le livre. Simplement, on sent aussi que c'est en fait la fierté de cette humanité qui est mise à mal parce qu'elle est dépassée à la fois par les événements et par la sagesse de ceux qui arrivent.
Elle est dépassée comme pouvaient être dépassées les sociétés précolombiennes à l'arrivée des conquistadors. C'est-à-dire elles avaient leur univers, elles ne connaissaient rien en dehors de leur univers, et soudain leur univers devient obsolète et il est balayé. Et la question qui est présente tout au long de ce livre, c'est et si l'humanité tout entière, à commencer par les pays les plus puissants, soudain se retrouvait dans la même situation, face à une civilisation beaucoup plus avancée, et qui rende notre civilisation, nos civilisations, obsolète.
Étienne de Montetti, vous avez lu Nos frères inattendus d'Amin Maalouf. Qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Oui, en effet, c'est un conte philosophique tout à fait passionnant et j'ai été stupéfait d'apprendre à Amin Maalouf que tout ça avait été écrit avant les événements de l'épidémie qu'on a connus, parce que c'est évidemment un livre qu'il faut lire en écho avec tout ce qui survient depuis quelques mois. C'est-à-dire, au fond, aussi notre rapport avec la vie, avec la souffrance, avec la maladie, puisque les frères inattendus ont des capacités technologiques que l'humanité commune n'a pas. Et cette question qui est posée, elle court tout le long du livre, c'est ce rapport avec la vie, avec le prolongement de la vie aussi, toutes ces questions un peu prométhéennes pour nous autres mortels.
Notre désir d'éternité est devenu notre chemin vers la servitude.
Hein. Voilà, est-ce que quelqu'un qui va nous apporter la guérison, qui va nous apporter la fin de la souffrance, est-ce que c'est souhaitable ou pas? Est-ce qu'on va s'en remettre entièrement à quelqu'un ou à un groupe d'hommes qui nous apporterait, qui nous promettrait une sorte de salut par la disparition de la souffrance, la disparition de la mort? C'est des questions très très intéressantes qui sont au cœur de ce conte philosophique. Il y a aussi la question d'une civilisation qui arrive dans la vie d'une autre. Vous venez de parler effectivement des civilisations précolombiennes. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que cette remise en cause totale de l'ordre du monde tel qu'il était en place depuis des millénaires dans une société, remis en cause par l'arrivée d'autres gens, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Toutes ces questions sont au cœur de ce livre. Et il y a une troisième chose dont on n'a pas parlé, mais il ne faut pas trop en dire, parce que ce livre est très bien articulé et il ne faudrait pas le démanteler en donnant des révélations. Mais il y a aussi des réponses à toutes ces questions posées par cet extraordinaire désordre qui survient dans l'humanité. C'est la part privée de chacun des personnages, notamment du narrateur, notamment d'Ève, qui, comme vous l'avez dit, porte un nom assez symbolique, et au fond une réponse privée qui est de l'ordre de l'amour, qui est de l'ordre de la vie, et qui est la micro-réponse, la réponse d'ailleurs très touchante, que le narrateur va trouver dans cet extraordinaire chaos que va connaître la société. Et ça, on s'est posé la question au début de notre discussion de savoir si ce livre a des aspects sombres. Il y a des aspects sombres, mais il y a des réponses qui sont de l'ordre de la lumière grâce à ce que le narrateur va connaître dans son cœur, au fond, tout au long du livre.
Le narrateur qui tient ce journal justement de cette période étrange que vous mettez en scène, Amin Maalouf. On a l'impression, c'est ce que disait Étienne de Montetti, qu'il y a ces deux sociétés, deux civilisations qui se rencontrent. C'est forcément un choc de civilisation. C'est difficile d'imaginer des civilisations qui puissent.
C'est certainement s'entendre. Un choc. Il y a eu tout au long de l'histoire des chocs entre des civilisations. Certaines ne résistaient pas à ce choc. Certaines ont été détruites par ce choc ou humiliées et n'ont jamais pu se relever. L'idée de ce livre, c'est que c'est en réalité l'humanité entière qui fait face à une telle situation. Le choc remet en cause tout ce que l'humanité a connu, a construit, tout ce qu'elle a considéré comme important, comme essentiel, comme un sujet de fierté tout au long de l'histoire. Et ceux qui en souffrent le plus sont ceux qui ont été les gagnants de l'histoire. Alors que les perdants de l'histoire, c'est peut-être un peu pour eux une revanche.
L'histoire est vraie puisque nous y croyons. Ça aussi, c'est ce qui est écrit, vous l'avez écrit, Amin Maalouf. C'est la force du roman.
Je crois que c'est la nature du roman en général. Le roman n'a pas vocation à reproduire la réalité. Il a vocation à donner de la réalité une interprétation romanesque, une interprétation symbolique, une interprétation incarnée et qui permet en réalité de mieux voir la réalité. Je crois que le roman n'est pas une manière diminuée de voir la réalité. Au contraire, c'est une réalité qu'on voit mieux, qu'on comprend mieux, qu'on appréhende beaucoup mieux grâce à la liberté que donne le roman.
Grâce à la fiction. Vous avez l'impression, pardon ?
J'ai l'impression de commencer à parler du roman d'Étienne de Montetti, parce que c'est cela.
Exactement.
C'est exactement cela. C'est-à-dire, la réalité gagne à être mise sous la lumière d'un roman. Je pense qu'on la comprend mieux, on la sent mieux et on, je dirais qu'on la dépasse mieux.
Merci Amin Maalouf. Nos frères inattendus, c'est paru chez Grasset. On va écouter un extrait, juste au début, un extrait lu par Stéphanie Gallet, juste au début du roman.
Ma lampe de 200 watts a tremblé au plafond, comme un chétif cierge d'église, et elle s'est éteinte. J'ai retenu mon souffle, j'étais en train de tracer à l'encre de Chine le trait ultime d'un dessin, ma main s'est immobilisée, puis elle s'est élevée lentement à la verticale pour éviter de tâcher. Dehors, c'était la tempête annoncée. La chose n'est pas rare en cette saison au voisinage de l'Atlantique. Pluie, rafale, éclair, et en bruitage de fond, le tonnerre, qui d'un grondement à l'autre bougonne encore. Au début, je n'étais pas inquiet, je n'étais même pas irrité. Ma journée, de toute manière, allait s'achever. Il devait être 19h30 ou un peu au-delà. Mon dessin était fait. Un dernier coup d'œil. Demain matin, quelques retouches. Ma signature, et je l'expédierai. J'ai retrouvé à tâtons le capuchon du stylo, que j'ai refermé de peur que la pointe ne se dessèche. Puis à tâtons encore, d'un geste qui m'est familier, j'ai tendu la main vers ma radio en bout de table. Elle est toujours réglée sur la même station, Atlantic Wave, qui émet sur longues ondes à partir des Cornouailles.
Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard rain.
gonna fall.
Quelques notes de Bob Dylan, c'était en 1962, Nobel de littérature en 2016, et qui dans son discours parle d'Homère notamment, effectivement, et cette présence de la culture grecque et de la sagesse grecque et dans le livre de Amin Maalouf que je reçois aujourd'hui pour son livre Nos frères inattendus chez Grasset, et avec nous aussi Étienne de Montetti pour La grande épreuve parue chez Stock.
Au pied de la lettre, RCF.
Étienne de Montetti, la grande épreuve, c'est celle qui attend vos personnages, mais ils ne le savent pas encore parce que rien, a priori, ne devait les réunir. Votre livre commence par des portraits croisés de cette France de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle.
En effet, c'est une petite ville de province, c'est une place comme on en connaît des milliers, c'est une vie quotidienne, un jour de semaine en été. Et puis, mystérieusement, d'une certaine façon, un certain nombre de personnages ont rendez-vous sur cette place, parce que sur cette place, il y a une église, il y a donc une petite assistance, il y a un célébrant, un prêtre, et puis surviennent deux jeunes gens qui vont faire irruption dans cette église pour assassiner le prêtre.
Ça, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un peu ce que vous reprenez de ce que nous avons vécu avec l'assassinat du père Jacques Hamel. Chaque personnage, on s'attache à chacun, quoi. On commence par Agnès, par exemple, qui deviendra religieuse, Nguyen, qui a besoin de canaliser sa force, David, qui est choyé par ses parents, François et Laure. Comment vous les avez choisi, dessiné vos personnages, vous les avez vus vivre sous votre plume?
Oui, je les ai vus vivre et surtout j'ai voulu aller les explorer de l'intérieur, parce qu'évidemment dans une telle tragédie dont effectivement j'ai repris le scénario à peu près exactement, on a envie de se situer du côté de la victime, c'est normal et c'est humain, et pourtant j'ai eu envie, j'ai même été assez aimanté par le destin de deux jeunes gens évidemment saisi, tiraillé par des problèmes d'identité. L'un d'origine maghrébine, mais comment dire, adopté et élevé dans une famille française, occidentale, chrétienne. Et puis l'autre, un garçon de la deuxième génération de l'immigration, donc lui aussi musulman, mais saisi par un problème qui est celui d'une génération. C'est par rapport au pays que leurs parents ont choisi. Est-ce que comment ils vivent cette intégration dans la France. Et j'ai voulu aller à l'intérieur d'eux-mêmes pour, non pas les excuser ou les absoudre, ce serait hors de propos, mais essayer de comprendre l'enchaînement qui conduit des jeunes Français d'aujourd'hui à commettre l'irréparable.
Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que pour tous les personnages, ils sont, il n'y a pas les bons et les mauvais. Il y a justement un mélange de rencontres, d'expériences, de choix qui sont faits parfois très longtemps à l'avance. Oui, c'est le destin de chacun se dessine petit à petit.
Oui, comme dans la vie, certainement. Ouais. C'est vrai que j'ai été assez attentif à étudier chacun de mes personnages pour voir leurs qualités, leurs défauts, leurs raisons de vivre, leurs raisons de mourir, des choses qui les dépassent, qui sont dans l'air du temps, quelque sorte, dont ils vont être les victimes, des choix qui sont faits aussi, pour, mon Dieu, puisque le roman a vocation quand même à dessiner la vie, peut-être un peu plus que la vie, il faut que ce soit comme dans la vie, avec des surprises, avec des choses inattendues, et puis je pense que le romancier a une certaine forme de compassion pour ses personnages, parce que s'il ne les aimait pas, il ne pourrait pas s'y intéresser, s'y attacher et les rendre vivants.
Et les regarder de l'intérieur, voilà. comme vous faites. Alors, il y a bien évidemment cette figure de prêtre, Georges Tellier, que vous décrivez aussi dans tous ses questionnements, dans sa pastorale, dans ses réussites, dans tout un choix de vie qui est exigeant.
Alors ça m'a été effectivement complètement dicté par le père Hamel, c'est-à-dire le surgissement dans l'actualité de ces milliers de prêtres qu'on a pu oublier, qui sont des hommes qui ne sont plus tout jeunes aujourd'hui, qui ont vécu les 50 ou 60 dernières années de l'Église, avec tous ces soubresauts, avec ces grandes pages, et puis ces pages plus douloureuses, et qui ont, à mon sens, d'immenses qualités, qui ne sont pas toujours assez mises en valeur, c'est-à-dire la fidélité à leur sacerdoce, à leur ministère, parfois dans la difficulté. Tout ça dans l'humilité, deuxième vertu de toute cette génération de prêtres, et une forme de pauvreté parfois dans, mon Dieu, dans leur vie quotidienne. Je ne parle pas de questions matérielles, mais dans l'ordre des résultats, entre guillemets. Ils sont au service de leur communauté. Et toutes ces grandes vertus de ce clergé français a été remise à l'honneur par l'un d'eux, le père Hamel, qui, dans ses dernières secondes, au fond, a donné du sens à son ministère par cette mort extraordinaire. Ça m'a sauté aux yeux. Mon personnage, j'ai envie de lui donner effectivement les traits de tous ces prêtres et aussi de beaucoup l'incarner dans à la fois ses enthousiasmes, sa foi, mais aussi ses doutes, ses tentations, vraiment l'incarnation d'un homme. Pas faire du prêtre un surhomme, un homme désincarné, mais au contraire un homme enraciné qui tient bon simplement par la foi, alors même qu'il peut être traversé par des questions comme tous les hommes, qu'ils soient prêtres ou mariés.
Il est confronté aussi à une grande solitude, malgré tout.
Oui, bah c'est celle du prêtre seul dans son église.
Ça renvoie à la responsabilité aussi des autres, enfin de sa communauté.
Bien sûr, de sa communauté qui ne le comprend pas forcément. Il peut avoir avec lui des relations amicales, mais pas forcément des relations de grande proximité. Et c'est la question, c'est vrai, de la place du prêtre, à la fois un homme qui est le chef de la communauté, porteur par le sacrement de l'ordre de quelque chose d'assez exceptionnel hein, pour les catholiques, mais qu'il ne faut pas mettre sur son piédestal. Toutes ces questions sont posées régulièrement hein, dans l'Église catholique. Donc comment avoir ce juste rapport avec les prêtres? Comment les hommes, et puis les femmes aussi, la question de la femme à l'intérieur d'une communauté chrétienne. Et voilà, j'ai voulu explorer toutes ces questions à travers cette figure de prêtre que j'ai inventée, Georges Tellier, mais qui est un peu le porte-parole ou le concentré de beaucoup de prêtres, éducateurs, prêtres de paroisse que j'ai connus, que j'ai aimés, qui m'ont beaucoup apporté, et à qui j'essaie de rendre quelque chose par cette figure de prêtre, Georges Tellier.
Alors, c'est pas un livre sur les religions, c'est un livre qui est traversé par les religions, parce que, peut-être, vous pouvez nous en dire un peu plus, c'est un élément malheureusement un peu marginalisé dans la vie de la société d'aujourd'hui, ou en tout cas peut-être dans l'aspect médiatique. Mais malgré tout, c'est là aussi le cœur de l'humanité, j'allais dire. En tout cas, le cœur de... Oui.
Oui, en effet. Et on le voit de manière, en l'occurrence, assez tragique. C'est-à-dire le surgissement de l'horreur dans une église, où on réalise qu'il y a des gens qui sont venus à la messe, parce que la messe les fait vivre, ce prêtre qui
messe
est...
de semaine, hein,
messe de semaine, voilà,
quelques-uns,
où un certain nombre de gens sont là, un prêtre qui jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à dans son grand âge, continue à servir, et puis aussi deux jeunes gens qui ont été saisis parce qu'ils pensent être une religion, qui va être évidemment une idéologie, c'est un islam dévoyé par l'islamisme, mais qui ont cherché dans leur jeune vie, ils ont une vingtaine d'années, des raisons de vivre, et ils les ont trouvées. Pour beaucoup de raisons liées à l'ère du temps en France aujourd'hui, à leur malaise identitaire, puisqu'ils sont tous les deux d'origine maghrébine, et puis des réponses données de loin, comme on le sait, par des donneurs d'ordre dans des pays du Moyen-Orient, mais qui ont cherché aussi une réponse et qui ont pensé la trouver du côté de l'islam, en réalité de l'islamisme. Donc on réalise que toutes ces personnes, quelle que soit leur histoire, cherchent un idéal, cherchent un sens à leur vie, et les trouve dans la religion, dans la religiosité, dans l'idéologie. Et j'ajoute qu'il y a un autre personnage qui est effectivement le policier, qui m'a beaucoup passionné, parce que lui n'est pas un homme religieux, il n'a pas reçu d'éducation religieuse, et donc il cherche un idéal ailleurs, dans quelque chose qui est difficile à définir, mais que notre société porte quand même, et qu'un policier, puisqu'il est policier, illustre assez bien un sens de la justice, un sens de la paix, puisqu'ils sont les serviteurs de la justice et de la paix, donc portés par une vision de l'humanité, que pour rattacher à Camus par exemple, qui fait qu'il va intervenir sur une scène de crime, alors qu'il n'y est pas, il n'y est ni juge, il n'y est ni, pardon, ni bourreau ni victime, et pourtant il va intervenir au péril de sa vie pour une certaine idée de l'homme.
Et puis en plus, il y a un très beau portrait de cette vie de couple avec Audrey, sa femme, de ce policier. Enfin, on sent aussi... dans vos différents personnages, cette quête d'un amour, enfin de relations personnelles et amoureuses pour les uns et les autres. Parfois ça rate, parfois ça réussit.
Voilà, et lui a plutôt réussi. Il est lui-même issu d'une histoire compliquée. Il est eurasien, Et puis là, rencontrer la femme. Hein, beaucoup de choses passent par la femme. Ça nous ramène au livre d'Amin Malouf. Et cette femme va l'équilibrer et va donner un sens à sa vie et lui permettre de faire un magnifique métier dans lequel il va s'épanouir, qui est la police au service des autres.
Mmh. Je voudrais qu'on revienne un petit peu justement sur le parcours de ces jeunes qui sont embrigadés, hein, finalement. On voit le rôle d'Internet, des réseaux, des manipulateurs.
Voilà, ils sont à l'adolescence en proie avec les malaises que peuvent connaître les jeunes, peut-être avec un surcroît de mal-être parce que l'un est l'enfant d'une famille immigrée, il en veut à ses parents de s'être fondu trop bien, pense-t-il, dans la société française et d'avoir effacé leur identité. Et l'autre est donc un enfant adopté avec les questions, outre de l'adolescence, les questions de l'adoption, les questions des origines, qui peuvent être très très fortes et très violentes. Et puis évidemment, ce malaise, la société a du mal à y répondre, pour énormément de raisons. Il ne s'agit pas de faire de la sociologie de bazar à ce micro, mais elle a du mal à leur donner un idéal, un dépassement de soi, alors qu'ils sont dans la recherche de cet idéal, avec la tentation de la transgression, évidemment. Et c'est ce monde magnifique et terrible d'Internet, ce monde du dark web, ce monde des réseaux câblés comme Telegram, par exemple, permettent à ces jeunes qui sont récupérés par un homme dans une mosquée eh bien de se trouver tout d'un coup une raison d'être, une raison de vivre et même une raison de mourir. C'est-à-dire que ces jeunes gens acceptent de donner leur vie, pensent-ils, pour une noble cause, en réalité un sordide assassinat. Et on se rend compte avec effroi qu'il y a une sorte d'efficacité dans une réponse extrêmement simpliste, extrêmement caricaturale, est relayé par Internet, donc la proximité, une sorte de mythologie qui est celle de Daesh, bon, qui a aujourd'hui peut-être un peu de plomb dans l'aile, mais enfin qui a pu être très très importante il y a quelques années.
Avec une vraie influence.
Et une influence, et puis donnant à ces jeunes gens, des petits Français ayant mené la vie de jeunes Français au lycée, et dans les lieux normalement structurants d'une adolescence, qu'un cas, tout d'un coup... Des raisons d'agir comme s'ils étaient les chevaliers du ciel.
Mais c'est une question que vous aviez déjà travaillé, un peu cette façon dont les jeunes... Parce qu'on a l'impression que tous vos personnages sont effectivement des gens qu'on peut croiser dans la vie quotidienne, simplement. Et petit à petit, les choses se cristallisent, alors que notamment ces jeunes auraient très bien pu rater leur rendez-vous, partir faire autre chose, et on n'en aurait jamais parlé.
Oui, en effet. Une espèce de mécanisme, alors qui n'est pas inéluctable. Hein, je décris pas ça comme une fatalité.
Oui, justement.
Mais de fait, la réponse à leur malaise, et on est dans une société quand même qui est traversée par ce malaise, ce mal-être, cette question du sens, cette question de l'idéal.
Il leur fallait un idéal à leur mesure. Hein, c'est ce que vous
exactement.
Dites, sinon, après, ça provoque une vraie révolte. Une révolte qu'on peut presque comprendre peut-être.
Oui.
Là, on rejoint Amin Maalouf par rapport à la société d'aujourd'hui. Enfin, il y a quelque chose qui ne marche pas rond.
Bien sûr.
Qui tourne pas rond.
Bien sûr. Et sans incriminer personne, c'est vrai que la question du sens de la vie, du sens de la société, vers quoi apporter cette extraordinaire énergie qui est propre de la jeunesse, c'est une question qui doit quand même se poser à chacun d'entre nous par rapport à nos propres enfants, par rapport à nos élèves si on est professeur. Par rapport à, pour les éducateurs aussi, quel idéal on donne dans une société qui a tendance beaucoup à protéger, à interdire pour les meilleures raisons sanitaires, l'absence de risque, on connaît tout ça, c'est un bien, mais est-ce qu'on ne bride pas, est-ce qu'on ne stoppe pas des jeunes qui ont une aspiration à vivre, à dépasser, à prendre des risques, à changer le monde, à sauver le monde, auquel cas des forces maléfiques peuvent embrigader ces grandes aspirations à vivre et à sauver le monde au service de causes absolument néfastes.
Alors on sent dans chaque personnage, il y a vraiment un cheminement que vous dessinez, et vous posez la question, est-ce un saint, est-ce qu'on est saint par sa vie ou par sa mort? Alors bien sûr, on pense au père Jacques Hamel et à votre prêtre dans votre roman, puisqu'il y a un procès en béatification qui est en cours pour le père Hamel. Mais cette question, elle est aussi ce que chacun fait de son existence.
C'est vrai. Alors, je pense qu'il est donné mystérieusement à certains d'être effectivement d'être saints par leur mort. ce qu'il y a du Père Hamel, ce qu'il y a des martyrs, ce qu'il y a de gens qui donneront leur vie pour les autres. Tout ça est magnifique. Mais pour l'humanité commune, hein, les classes moyennes de la sainteté, comme dit le pape François, bien ça va être par une vie de service, une vie de bienveillance, avec la pauvreté de la condition humaine, tout simplement.
Mmh. Amine Maalouf, vous avez lu le livre d'Étienne de Montetti.
Je l'ai lu avec passion. Je trouve que tout au long du livre, je me disais, c'est exactement comme ça que ça a dû se passer avec ces jeunes. Parce qu'on a deux personnages qui sont paumés au début.
Pas méchants.
Non, pas nécessairement. En tout cas, rien d'inéluctable dans le parcours. Et peu à peu, soit par des rencontres liées au hasard, soit par des cheminements de pensée et de réaction, on voit comment ils sont en train d'évoluer. Et à un moment donné, ça devient difficile de reculer. C'est vrai que toute personne, à un moment donné, notamment à l'adolescence, cherche une raison d'être. Et je suis frappé par deux choses à ce propos. Notre société, en réalité, ne propose explicitement rien. Elle propose des choses, mais on estime que ce n'est pas le rôle de la société de proposer. On considère que les choses viendront d'elles-mêmes. Or, les choses ne viennent pas d'elles-mêmes. Moi, je pense que dans une société, la diversité peut être la meilleure et la pire des choses. La diversité, quand elle est pensée, quand on sait la canaliser, c'est un enrichissement extraordinaire pour une société. Mais la diversité laissée à elle-même, à l'état sauvage, avec toutes les tensions, c'est la pire des choses qui puissent arriver. Et malheureusement, nos sociétés n'estiment pas qu'elles ont besoin de gérer cette diversité. Ni au niveau de l'école, ni au niveau de la famille, ni au niveau de l'État. On laisse les choses au hasard. Et malheureusement, ça aboutit à ce que l'on voit. C'est-à-dire
à ces identités meurtrières, si j'ose le reprendre.
Oui, d'abord meurtrier, ensuite meurtrière.
Meurtrier et meurtrière. Voilà, on va écouter juste un extrait de La Grande Épreuve, le livre d'Étienne de Montetti, paru chez Stock, lu par Stéphanie Gallet.
Ses premiers mois en Algérie ne lui avaient plus permis de pratiquer aucune église aux environs. L'aumônier passait de temps en temps, trop rarement. Alors Georges s'était dépris de la messe et des sacrements. Très vite, il n'y avait plus pensé. C'est la nuit, sous le ciel d'Algérie, immense, jonché d'étoiles, fumant doucement une cigarette nichée au creux de sa paume, qu'il sentait monter en lui une immense aspiration à croire. La première fois, il en fut troublé. Dieu se manifestait non plus entre quatre murs, mais dans l'immensité d'une voûte étoilée. Bientôt, il se mit à guetter ces heures de solitude et de silence, d'où naissait spontanément une certitude, celle de la présence de Dieu à ses côtés, fraternelle et engageante. Il avait même entrepris un dialogue, dont les termes même l'avaient étonné par leur simplicité un peu triviale. Était-ce cela la prière ?
Abderrahman, Martin, David, et si le ciel était vide, tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées. Tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus, d'hymnes qui résonnent, si en plus il n'y a personne. Abderrahman, Martin, David.
Et si en plus il n'y a personne, Alain Souchon, au pied de la lettre aujourd'hui avec Étienne de Montetti pour La Grande Épreuve parue chez Stock et Amine Malouf pour Nos Frères Inattendus aux éditions Grasset.
Au pied de la lettre, présenté par Christophe Hénin.
Allez, donnons une seconde chance à un roman paru durant ce premier semestre 2020. Les livres sont sortis en plein confinement alors que la librairie était fermée. Mais des romans qu'on ne peut pas laisser passer à la trappe. Armel Job, bonjour. Vous êtes avec nous par téléphone, vous êtes un romancier à brillante carrière. Hein. Il y a beaucoup de romans parus déjà depuis une vingtaine d'années.
Oui. Je ne sais pas s'ils sont brillants, mais ils sont nombreux.
Ils sont nombreux. La disparue de l'île Mont-Saint est un roman, alors qu'on ne lâche pas, paru aux éditions Robert Laffont. Ça pourrait être simplement un fait divers, c'est plus que ça.
Oui, bien sûr.
Dites-nous en quelques minutes.
Le roman donc commence en janvier 2012. On est à Liège, il neige, une véritable tempête, et Jordan Novak, qui est un loueur de piano, qui vient de livrer un instrument pour un concert dans un centre culturel, arrive aux abords de l'île Mont-Saint. L'île Mont-Saint, c'est une petite île sur la Meuse à laquelle on accède par un pont qui est assez particulier à Liège. C'est un pont barrage qui fournit également de l'électricité. Et quand il aborde le pont, il aperçoit une silhouette penchée sur le parapet. Il s'arrête évidemment. La silhouette, c'est une jeune femme qui se retourne, le visage ensanglanté, il comprend qu'elle allait se jeter à l'eau. Et il va évidemment la recueillir, il l'héberge pour la nuit, mais le problème, c'est que le lendemain matin, elle a disparu. Elle va donc commencer une enquête qui va être menée par un jeune inspecteur, l'inspecteur Lipski, qui est tout à fait débutant, et qui va très rapidement soupçonner Jordan Novak d'avoir fait disparaître cette jeune femme. Alors, ce qu'on va aussi très rapidement comprendre, c'est que la vie de cette femme a été particulièrement perturbée par un fait divers réel, je ne l'ai pas du tout inventé, un fait divers qui s'était passé exactement un an avant le début de mon roman. Ce fait divers tragique, c'est la disparition de deux petites filles qui sont tombées à l'eau dans la Meuse, une petite fille de 6 ans et puis sa sœur qui avait une douzaine d'années, qui s'est jetée à l'eau pour essayer de sauver sa sœur alors que ni l'une ni l'autre ne savait nager. Elles se sont donc noyées et quelques semaines plus tard, un sapeur-pompier de Liège qui recherchait les corps de ces deux petites filles s'est lui aussi noyé aux abords du pont barrage de l'île Mont-Saint.
Comme d'habitude dans votre roman, hein, dans vos romans, on sent que les personnages ils sont plus complexes aussi hein, que ce qu'ils ne paraissent être.
Oui, bien sûr. J'imagine que c'est l'intérêt d'écrire des romans. Je crois que des romans, c'est un petit peu comme ça consiste à faire la rencontre de quelqu'un. Quand nous rencontrons quelqu'un, on ne voit d'abord que la surface des choses, on ne sait pas vraiment qui est la personne, et le roman est l'occasion d'aller chercher un petit peu au-delà de cette surface et d'essayer de comprendre qui sont les personnages. Donc mes personnages, c'est vrai, ce sont des personnages qu'on découvre petit à petit, dont on comprend peu à peu la vie et les préoccupations, ce qui a pu les amener aux situations dramatiques qui sont exposées dans le roman.
Voilà, et il faut que l'inspecteur Lipski apprenne un petit peu à déchiffrer la psychologie des personnes suspectées.
Oui, parce que il ne s'agit pas d'un roman policiers, parce que chez moi, les policiers sont pas aussi intelligents que dans les romans policiers. C'est vrai que Lipski mène une enquête aussi soigneuse que possible, mais finalement, il ne comprend pas grand-chose aux personnes sur lesquelles il enquête.
Merci, hein, Armel Job. Je me rappelle le titre de votre livre, La disparue de l'île Mont-Saint. C'est paru chez Robert Laffont. Et puis, même si c'est sorti en mars dernier, il est toujours possible de se le procurer. Merci beaucoup.
Oui, à bientôt. Merci.
Au pied de la lettre, RCF.
Stéphane Bataillon, bonjour.
Bonjour Christophe.
Alors, vous venez chaque semaine nous parler poésie, nous présenter les nouveaux recueils, les textes qu'il faut découvrir absolument. Aujourd'hui,
on part en Afrique du Sud, à la découverte d'un poète qui sort son premier recueil, Nathan Tantral, qui naît au Cap, et qui propose un recueil assez dur, qui s'appelle « Vache enragée », qui nous raconte un peu la vie des couches populaires en Afrique du Sud, en écrivant ses poèmes en caps, qui est un peu l'argot local, et qui n'essaye pas d'embellir la réalité, qui nous raconte cette vie dure des bas-fonds du Cap, avec des poèmes publiés en bilingue, dont je vais vous lire un extrait avec Valaa Park.
Alors on vous écoute.
Il y a des adultes assis sur le trottoir, qui jurent comme des charretiers et jouent au domino. Des bébés qui jurent comme des charretiers et qui jouent au milieu de la rue. Les voitures doivent faire le tour. Il y a des familles entières assises sur le trottoir devant leur maison qui te regardent d'un sale œil quand tu passes devant eux. Sur la route, il y a des oies, une centaine de chiens perdus, un millier d'humains perdus. Et si tu regardes bien les visages, tu verras qu'ils sont tous morts depuis 1000 ans. Les gens, les oies, les chiens. Ils sont contents d'être là. Et tous ceux qui vivent à Valaa Park te le diront. C'est l'endroit le plus sûr où habiter. Je les crois parce que c'est prouvé. Les morts ne font pas peur aux morts.
Texte d'une grande densité, d'une violence. Hein. C'est un peu le rôle aussi de la poésie. On a toujours l'impression que la poésie,
c'est une autre
c'est
façon de le
tout
dire.
Tout ce qui va bien, mais ça peut être aussi porter le fer là où
le
ça fait mal.
Le fer dans le réel, dans un autre réel. L'auteur est journaliste par ailleurs. Et c'est vraiment une autre manière de témoigner du réel que la poésie.
Merci Stéphane Bataillon. Vous nous rappelez le titre, l'éditeur.
Alors, Vache enragée de Nathan Tantral. C'est édité aux éditions Lanskine.
Merci beaucoup Stéphane Bataillon. Puis je voudrais qu'on profite des quelques minutes qui nous restent, Étienne de Montetti, pour revenir aussi à un épisode important que vous relatez dans votre livre et qu'on a entendu avec la lecture de Stéphanie Gallet. C'est cette guerre d'Algérie auquel votre curé, j'ose dire, celui de le père Georges Tellier, a vécu.
Oui, parce que je pense que cette guerre d'Algérie, c'est un peu le décor au fond de ce livre et probablement d'une certaine actualité en France, c'est-à-dire une plaie mal refermée d'une histoire qui a eu des belles pages et des pages tragiques, c'est la présence française en Algérie. Tous nos aînés s'en souviennent, beaucoup de jeunes Français y sont allés, il y avait quand même 1,5 million d'Européens qui habitaient là, et puis après l'immigration d'origine algérienne a fait que ce lien difficile, ce lien douloureux, mais toujours réel entre l'Algérie et la France, tout ça continue. Et je pense que c'est une histoire qui pèse sur l'actualité, et beaucoup de jeunes Français d'origine algérienne mêlés à faits divers liés à l'islamisme ou à la délinquance, qui font la une des journaux. Il est très très fréquent que l'Algérie, et donc la guerre d'Algérie, ne soit pas le décor de leur histoire personnelle.
Une histoire à revisiter, effectivement.
À purifier et à prendre avec délicatesse pour l'apaiser, parce que je ne crois pas qu'on puisse donner à aimer un pays en en montrant que les pachons, il y a un travail extrêmement délicat à faire. Il y a un pays à aimer, la France, une histoire à aimer, tout en purifiant sa mémoire. C'est un exercice extrêmement délicat qui prendra du temps.
Amine Maalouf, vous voulez réagir sur cette question?
Oui, je pense qu'on n'a jamais vraiment dépassé la guerre d'Algérie. Et on n'en prend pas le chemin, d'ailleurs. Je crois qu'il y a, un élément fondamental qui s'est passé pendant la présence française en Algérie, c'est que on n'a pas considéré la population locale comme des citoyens à part entière. Et ça, pour moi, c'est un péché originel
qui reste
avec nous pour très longtemps. Je pense qu'on a fait tout au long de cette histoire jusqu'à la fin, on a commis cette faute. Et il faudrait vraiment se faire un examen de conscience. Moi, je ne crois pas tellement au repentir public. Il faut faire un examen de conscience et trouver véritablement et enseigner véritablement l'histoire d'une autre manière et pour exorciser cette histoire qui reste encore avec nous.
Alors justement, pendant cette période, Georges, le père Georges, qui n'est pas encore prêtre à ce moment-là, a des lectures, Christiane Rochefort, André Chédid, Joseph Malègue, c'est des conseils, on sent que Étienne de Montetti vous conseillez ces lectures. Peut-être vous pouvez nous conseiller aussi des lectures d'aujourd'hui, puisque c'est aussi, vous passez énormément de temps à lire, parce que je rappelle, vous êtes directeur du Figaro littéraire. Allez, qu'est-ce qui, dans les derniers livres que vous avez découverts, que vous pouvez nous conseiller, profitons-en.
Oui, il y a deux livres, par exemple le livre d'Éric De Luca, Impossible, histoire d'un alpiniste, une sorte de conte symbolique pour s'élever dans la montagne, pour dépasser sa condition et son histoire.
Voilà, Éric De Luca qui était avec nous la semaine dernière.
Ah ben voilà, American Dirt de Janine Cumming sur l'histoire des migrants entre le Mexique et les États-Unis, une espèce de quête de la terre promise sur fond de narcos, sur fond de violence. Ça, c'est un très très grand livre. Et côté français, il y a un livre de Maël Renoir qui s'appelle L'historiographe du royaume, qui est sur le Maroc d'il y a une cinquantaine d'années. C'est un livre magnifique, largement inspiré par Gracq dans la manière d'écrire et de raconter cette histoire. Et c'est une très belle surprise de la littérature française qui sort ces jours-ci.
Merci de vos conseils, Amine Maalouf. Alors, je sais bien qu'il y a les travaux de l'Académie qui vous prennent, mais est-ce qu'il y a juste un titre peut-être qui vous vient?
Un des tout derniers livres que j'ai lu, que j'ai trouvé passionnant, et c'est peut-être un peu en m'inspirant de cela que je parlais de l'Algérie, c'est la nouvelle biographie de Gaulle par Julian Jackson, qui est intéressante, qui a parfois un ton un peu réducteur, un peu hargneux à l'égard de Gaulle. C'est une histoire de Gaulle vue quand même du côté anglo-saxon, mais passionnante.
Merci à tous les deux. Alors, je rappelle le titre de vos ouvrages, de vos livres, de vos romans. La grande épreuve, Étienne de Montetti, c'est paru chez Stock. Nos frères inattendus, Amine Maalouf, c'est paru chez Grasset. Merci à Pierre-Henri Paget qui a réalisé l'émission. À pied de la lettre, eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.